Jusqu'où va aller Rafael Nadal après un sacré combat contre Pedro Kacin? Cette nuit, il va affronter Jiří Lehčka et on sera là pour le commenter en direct. Une grosse soirée avec la Ligue des Champions et le live comment de Rafa dans la foulée. Mais avant tout, on va vous parler un petit peu de Madrid pour voir ce qui s'est passé depuis le début de tournoi. Quelques quarts sont connus, même plus chez les dames. Donc on va se projeter un petit peu sur la fin de tournoi. Et ce soir, je suis en compagnie de Rob et Josh. Comment ça va les gars?
Super, content d'être là, de débriefer avec vous. Ce tournoi sur 12 jours, oui, c'est déjà passé pas mal de choses, on va en parler dans les deux tableaux, mais voilà, c'est un bon tournoi, on va dire. On espère qu'on n'est pas au bout de nos surprises.
Tu partages ta aussi, ouais, on a une belle journée, ouais, vraiment une belle journée avec Sinner Alcaraz un peu accroché, un peu testé. La surprise Zverev éliminée, des beaux matchs dans l'ensemble, donc non, je trouve qu'on a un bon tournoi de Madrid. Pas mal de combats, donc ça fait plaisir en tout cas pour bien attaquer cette saison de terre battue après Monte Carlo.
C'est clair, c'est vraiment une belle dizaine. Et pourtant, ce n'était pas gagné au vu de la forme de Carlos Alcaraz, cette incertitude. Pareil avec les déclarations au début de Rafa. Et au final, on s'en sort pas trop mal avec de sacrés matchs. On va revenir un petit peu sur tout ça après le jingle. Salut Alan, salut Romain. Donc comment ça va se passer ce soir? On va être pendant une petite heure en live pour revenir un petit peu sur tous les matchs, les affiches connues. Et on se retrouvera normalement à 22h pour les débuts du match de Rafa dans un second live. Si vous voulez vibrer avec nous sur cette night de folie, ben ça se passe sur Games Ten Talk. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. On va attaquer tranquillement. Donc si on prend un petit peu la température de ce début de Madrid, même qui a bien avancé, donc on peut noter les éliminations de Tsitsipas, de Rune, le beau parcours de Mensik et de Fonseca chez les hommes, la fin de série pour Collins contre Sabalenka et Gauff qui a été éliminé par Madison Keys qui est en train de jouer justement contre Ons Jabeur. Rob, quel est ton avis de ce début de tournoi? Tu parlais d'un bon tournoi, qu'est-ce qui t'a le plus marqué?
Moi de mon côté, ouais, je suis assez d'accord avec ce qui a été mis. Tsitsipas éliminé, alors une surprise, oui. Mais je pense que s'il y avait un tournoi de terre battue où il pouvait sortir rapidement, c'était celui-là, parce qu'on sait qu'il aime moins les conditions d'altitude. Madrid a souvent moins performé. Donc c'était une surprise quand même contre Montero, mais je n'étais pas si surpris. Rune, encore une fois, malheureusement assez instable. Même déjà contre Navone, il aurait dû se faire éliminer Navone, qui fait un petit peu un choc à la fin. Et finalement, c'est Krikspor qui a réussi à gagner. Donc ouais, je retiens aussi malheureusement les mauvais parcours des Français. Autant à Berck, on se trouve, c'était assez prévisible et il n'y a pas forcément de regret parce que je trouve qu'on l'a vu aujourd'hui, il joue exceptionnellement bien. Mais par contre, voilà, déception un petit peu pour mon fils. Donc on espère quand même du mieux sur Rome parce qu'on aimerait voir des Français en forme à Roland. Mais après, non, globalement, ouais, c'est tout ce que j'avais noté. Ouais. Et puis Collins, côté féminin, ouais, qui a enfin vu sa série folle briser les 15 victoires. Donc on a eu un beau tournoi, une belle première semaine, en tout cas, je trouve, de mon côté.
Et juste pour info, donc Casper Ruud a débreaké dans le second set, il y a deux partout contre Jaliasim et balle de break pour Jabeur sur un jeu accroché de Madison Keys d'entrée. Josh, toi, d'autres trucs que tu as retenu de ce début de tournoi de Madrid?
Oui,
et break pour Jabeur.
Ce tournoi qui... On a déjà eu des beaux matchs, hein. Forcément, ce tournoi qui est forcément marqué par... Par Rafa qui essaye de retrouver plus de sensations après son Barcelone assez court et qui là retrouve quelques couleurs malgré des difficultés. Contre Dominor, on a vu des belles choses, ça a fait plaisir à beaucoup de monde. On a des beaux matchs, un Montero en fuego qui vient stopper Tsitsipas, un Rune Navon incroyable.
C'est fou, ouais.
Rune qui sort après contre Gaspour. Donc voilà, on a des matchs très très intéressants. On a aussi Rublev mine de rien qui était sur une mauvaise série et qui là est en quart de finale à Madrid, c'était pas forcément attendu, même si on a vu contre Davidovic
ouais.
Loin d'être facile. On a
joli choc
au match, même ce Alcaraz se trouve qui vient de se terminer très intense. Et donc non, ça promet, enfin, on aime bien, voilà, avoir des gros matchs bien intenses en 3-7 serré où ça joue vraiment sur terre battue, même si on sait que Madrid sort un peu de ses conditions sur terre européenne, ça fait toujours plaisir d'avoir des beaux matchs comme ça. Et donc on espère que ça va suivre.
Je suis en phase avec ce que vous avez dit. C'est clair que c'est un bon tournoi pour le moment, avec certes ce format un petit peu rallongé, donc il peut avoir quelques longueurs, mais quand même du beau tennis du côté masculin et féminin. On commence tout de suite, donc les quarts masculins en tout cas pour ceux qui sont connus. Donc on a un Yannick Sinner qui s'est qualifié après sa victoire contre Khachanov. Ça a été compliqué. Déjà hier, quelques alertes physiques. A priori, ça allait bien contre le Russe malgré la perte du premier set. Il ne connaît pas encore son adversaire étant donné qu'Ojeliassim et Ruud sont en train de jouer. Josh, est-ce que pour toi, Yannick Sinner, on est sur la lignée de ce qu'on a vu en ce début d'année 2024 ou tu sens une petite baisse et il faut faire quand même attention physiquement à pas rater les grosses échéances et notamment Rome qui sera en Italie chez lui et Roland-Garros?
Oui, forcément, qu'on sent une petite baisse. On sait qu'il y a eu cette petite gêne hier. Aujourd'hui, il s'en sort. C'était vraiment pas fait contre Khachanov, qui pratique un bon niveau de jeu, qui aime bien ses conditions avec son jeu en puissance. Maintenant, c'est fou hein, de le voir passer, enfin gêner physiquement comme ça, même si ça se ressent pas directement sur le court. Il peut quand même déployer son niveau de jeu en cadence incroyable qu'il fait depuis le début d'année. Mais moi, en tant que. Ouais, je commence vraiment à être fan de Sinner. J'aurais préféré, à la limite, qu'il perde et qu'il aille à Rome tranquillement, se soigner là comme ça, pour être vraiment en trombe à Rome chez lui, puis à Roland-Garros, qui est son objectif, mine de rien, sur terre battue. Mais on voit en fait qu'il a un niveau moyen extraordinaire, Sinner, ces derniers temps. Et un match comme ça, il y a un an et demi, il l'aurait perdu. Il l'aurait perdu, et là, on voit qu'il passe, il est plus solide que Khachanov. Donc c'est rassurant, mais en même temps, faut vraiment, ouais, comme tu l'as dit, faire attention physiquement parce qu'il enchaîne les matchs. Là, ça va enchaîner directement demain, après-demain s'il gagne. Et donc, ouais, attention. Est-ce que son objectif, c'est Madrid, qui est un gros tournoi, ou c'est plutôt Roland-Garros et même Rome, où je pense qu'il a à cœur de très très bien faire chez lui. Donc attention.
Donc logiquement, il aura un jour de repos demain, sachant que ça va être la partie d'Alcaraz qui
Ouais,
jouera. Donc le Serundolo Fritz, c'est le Alcaraz Rublev. Donc ça lui permet de se remettre un petit peu. Même si dans sa conférence d'après-match contre Kotov, il avait le sourire et il disait que c'était un peu une surcharge quand il avait passé du temps à la salle la semaine dernière et que des fois ça le gênait plus ou moins. Toi, Rob, sur Sinner, et même si on va un petit peu plus loin sur son adversaire Ojeliassim ou Ruud, qu'est-ce que tu penses de ce quart-là pour l'Italien? Est-ce que tu le vois passer encore un tour supplémentaire ou au contraire peut-être coincé un petit peu physiquement?
Moi non, il m'inquiète pas trop. Alors oui, hier il y avait cette petite alerte, c'est vrai qu'on se posait pas mal de questions dans le deuxième set face à Kotov. D'ailleurs au passage, Kotov qui nous a sorti un beau service à la cuillère dans un moment chaud, qui aurait vraiment pu prendre ce deuxième set, mais qui n'a pas réussi à être clutch. Mais comme tu disais, oui, il avait le sourire après le match, il n'avait pas l'air d'être si inquiet que ça. Et aujourd'hui, alors les AP entre Alcaraz et Sinner, c'était assez chaud. Mais j'ai vu un petit peu Sinner et ça avait quand même l'air de bien bouger, moins d'inquiétude. Donc je suis pas trop inquiet. Après, oui, forcément, il enchaîne beaucoup de cette saison. Il est déjà à 30 matchs joués. Mais après, c'est une gêne qui, pour moi, arrivait déjà à Monte-Carlo. Je me demande si c'est pas la même chose. Mais je suis pas trop inquiet. Je pense qu'il se connaît quand même. Il arrive à gérer. On l'a vu hier. Il a quand même un tableau qui, pour moi, est abordable. Enfin, pour moi, c'est le favori pour aller en finale dans la partie haute. Bon, après, Ojeliassim, peut-être s'il joue le feu, on sait jamais. Mais je pense que Ruud, dans ces conditions-là, il est quand même meilleur. Que Ruud. Dans des conditions plus rapides, je pense que à l'échange, il sera trop fort pour le Norvégien si c'est le Norvégien qui passe. Et après, ça serait Medvedev, contre lequel il a vraiment un ascendant psychologique maintenant, ou Rafa, potentiellement. Si déjà Rafa passe 2 tours de plus, voilà, s'il arrive en demi-finale, on ne sait pas dans quel état il sera. Donc, enfin voilà, je suis quand même assez confiant pour Sinner dans ce tournoi. Après, oui, il y a la question de peut-être qu'il va se préserver pour Rome, mais. En même temps, il est en train de faire une saison tellement exceptionnelle. Il fait demi-finale dans tous les tournois. Je me dis, je le vois pas forcément balancer des tournois. Et s'il doit perdre, ça sera au terme d'un gros combat, comme ça a pu être contre Alcaraz ou Tsitsipas, mais je le vois pas balancer.
Attention quand même, bah Yannick Sinner qui disait après Monte-Carlo que Madrid allait être vraiment un tournoi de préparation pour Rome et Roland-Garros. Donc attention de ne pas cramer des cartouches trop tôt pour ces grandes échéances. On verra si c'est payant ou non dans les semaines à venir. Mais forcément, il a attendu des favoris. Et c'est ça qui risque d'être compliqué de faire les bons choix. Là, il est en quart. Peut-être il peut viser plus haut. Et après, de s'abstenir ou non pour la suite. Et surtout, ben, Roland-Garros, le rendez-vous où on l'attend. L'autre quart, donc Medvedev, qui est passé contre Bublik dans un match assez divertissant, notamment le premier set. Medvedev qui a eu enfin un peu de mal contre Korda. Et également lors de son premier tour. Et ce sera contre Nadal ou Laïchka. Josh, Est-ce que c'est une bonne surprise pour toi de voir Medvedev en quart de finale qui, la semaine prochaine, défendra son titre à Rome? Qu'est-ce que tu as pensé un petit peu du russe? Et si tu dois te mouiller rapidement sur le Nadal Laïchka, même si on aura l'occasion plus tard d'y revenir, ça serait quoi?
Très content de voir Daniil à ce stade déjà. C'est un quart déjà en Masters 1000 en Masters 1000 sur Terre.
9 sur 9?
Ouais. 9 sur 9, il a fait tous les quarts. Ouais, ça y est, il a complété aujourd'hui son grand chelem des Masters 1000 en quart.
Ça montre toute sa solidité, même sur Terre, où même s'il pense qu'il n'est pas très bon, il est là. Très content de le voir à ce stade, après ce Monte Carlo, vraiment décevant dans l'attitude, dans le comportement. Il bat mon fils, il ne fait vraiment rien. Kachanov, vraiment, c'est un match à sa portée normalement. Et là, il confirme, malgré quelques difficultés contre Korda, malgré difficultés contre Bublik, on sait que c'est un joueur piège. Et non, très content de le voir là. Maintenant, il va jouer Nadal potentiellement en quart de finale. Ce serait le premier affrontement entre les deux sur terre battue. Ce serait très, très intéressant de voir ça. Comment Medvedev va gérer Rafa, comment Rafa va gérer le piège Medvedev. Sur Nadal Laïchka, pas évident parce que on a vu 3 ou 4 Nadal sur ces 3 matchs.
C'est ça.
Nadal, un bon Nadal. Enfin bon, un Nadal qui a tout en maîtrise sur son premier match, qui n'avait pas une grosse opposition. Un Nadal qui a montré de très belles choses contre Demi-Nord, qui a retrouvé ses séquences un peu côté coup droit, et même en revers où c'était assez solide par moment. Et un Nadal qui nous a bien inquiété hier. Parfois, ça sortait pas du tout de la raquette. Donc, quel Nadal on aura? C'est un peu ça la question qu'il faut se poser, je pense. Et ça va être dur. C'est son 4e match dans ce tournoi. Je pense que physiquement, si ça commence à durer 2 heures, 2 heures et demie, ça peut baisser à un moment donné. Laïchka, qui certes est sur une bonne lancée et qui n'est pas forcément le plus gros adversaire sur terre battue, je vais aller sur un 3-7. Je vais aller sur un 3-7. C'est dur de sortir un vainqueur après tout ce qu'on a vu. Je vais aller sur Rafa quand même à l'envie, mais ouais. Mais Rafa en 3-7, mais ça va pas être facile ni pour l'un ni pour l'autre. Mais bon, je vais essayer de rêver un peu et de voir ce Nadal Medvedev en quart, même si on ne sait pas comment Nadal arrivera sur ce quart de finale.
Et toi, Rob, par rapport à Daniil, ce que tu as vu à Monte Carlo, ce que tu vois à Madrid, et si tu te mouilles un peu pour son futur adversaire?
Je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Josh. C'est sûr que dans l'attitude, c'était catastrophique à Monte Carlo. Il se plaignait contre mon fils, il se plaignait contre Kachanov. On a vu des choses qu'on n'aime pas voir de Daniil. Des fois, c'est marrant. Hier, c'est marrant quand il se moque des Illuminati, mais à Monte Carlo, c'était pas marrant, quoi. C'était juste inutile et relou. Là par contre, ouais, c'est un Daniil qui est concentré, qui n'avait pas un tirage facile. Arnadi pour un premier tour, c'est pas évident. Korda qui est capable vraiment de l'embêter, qu'il a déjà battu 2 fois, c'était pas évident non plus. Mais au combat, contre Korda, il passe à 2 points de la défaite, mais au combat, il s'en sort. C'est surtout ce que je retiens de Daniil cette saison. Je trouve que tennistiquement, il joue pas prime, c'est pas non plus incroyable. Par contre, il se bat, il a jamais rien. Son parcours à l'Open d'Australie, c'était complètement fou. Et là, dans ce Madrid, c'est un peu pareil. Il se bat, même contre Bublik, qui était un peu en difficulté dans le premier set. Il arrive à redébriquer. Donc, c'est ce que je retiens de Daniil, qui sera quand même dur à sortir sur ce tournoi, je pense, pour le vainqueur du match de ce soir. Pour mouiller, pour ce soir, je rejoins Josh. Je pense que je vois Rafa. Ça ne sera pas simple. Après, je me demande si ça peut peut-être faire 2-7. Je ne sais pas. Je me dis que Laïchka... on va dire que je suis toujours positif. Mais je me dis que Laïchka, c'est pas non plus un joueur qui a un jeu hyper adapté à la terre battue. Alors on sait que c'est Madrid, donc c'est différent. J'ai hâte de voir un peu le match-up parce qu'on l'a jamais vu entre les deux joueurs. Mais je pense que je suis quand même assez confiant pour Rafa, qui a plus d'automatisme sur terre battue, je pense. Et je pense que Kachin était peut-être plus en mesure de proposer beaucoup de rallyes à Rafa, ce que Laïchka fera peut-être un peu moins. Donc à voir, je suis curieux vraiment forcément de voir comment il enchaîne. C'est peut-être le match le plus dur pour Rafa, parce que c'est le seul où il a pas de repos. Donc vraiment, je suis curieux. Encore une fois, on va voir ce que ça donne, mais ça va être sympa à suivre. Et j'aimerais bien voir le Nadal Medvedev quand même. Dans une ambiance où Rafa est à la maison, on sait que Daniil peut exploser des fois. Le côté un peu revanche de leur match 2 fois l'Open d'Australie en 2022, ça pourrait vraiment, vraiment être sympa.
On va voir ce que ça va donner. C'est pas évident, et même d'une façon plus générale, c'est pas évident de se mouiller dans ce tournoi parce qu'il y a quand même des favoris, mais avec beaucoup d'incertitudes, que ça soit ben, Sinner, Alcaraz, là, Medvedev aussi, un Nadal qui joue coup-ci, coup-ça. Mais en tout cas, très, très positif le parcours du Russe. Derrière, on connaît les deux affiches des quarts de finale. Ce ne sera pas Zverev contre Hurkacz, mais bel et bien Cerundolo contre Fritz. C'est Rondolo qui a fait un très bon match contre l'Allemand, voilà, notamment qui a exploité les défaillances de son adversaire côté coup droit. Et Fritz qui s'est montré un petit peu meilleur à la relance que Hurkacz dans cette bataille de gros serveurs. C'est Rondolo mène, sachant qu'il s'était joué à Roland-Garros l'an dernier. Et on a Jabeur qui mène 4-0 d'ailleurs contre Madison Keys. Et Ojeliassim qui est dans un jeu compliqué contre Casper Ruud. Rob, ton avis sur cette affiche surprise? On sait que Fritz, voilà, il a fait de bonnes choses à Munich. Il a retrouvé un peu des bonnes sensations. Sur terre, il a du temps. Donc, c'est appréciable pour son côté revers. Il arrive à générer facilement de la puissance. Cerundolo, lui aussi, il était un petit peu disparu sur ce premier trimestre. Mais on sait que c'est un joueur redoutable sur terre battue avec cette vraiment préparation, cette puissance côté coup droit. Est-ce que c'est une affiche ouverte pour toi? Est-ce que tu vois un favori se dégager?
Non, match très ouvert. Déjà pour revenir un peu, alors j'ai pas vu Cerundolo contre Zverev, mais j'ai entendu que Cerundolo avait été très très bon en isolant Zverev côté coup droit. Donc il a bien su exploiter les failles de l'Allemand qui, contrairement à ce que je pouvais penser dans ce tournoi, a encore un peu déçu. C'est vrai que c'est une tournée sur terre battue pour le moment qui est pas bonne, que ce
Je
soit
pense qu'on
monté.
était tous d'accord. J'ai plus en tête ton prono, Josh, mais je crois qu'on
Ouais.
était tous d'accord pour le voir en finale.
Je l'avais en finale, moi, et je voulais peut-être même gagner vraiment contre Sinner en
Ouais.
finale. Je me disais, on n'est pas loin du 50-50, quoi. Donc, ouais, un peu décevant. Contre Tsitsipas à Monte Carlo, il est quand même mené 5-0 dans le deuxième, alors il revient, mais il est quand même complètement à côté de ses pompes.
Ouais,
Bon, à
depuis l'Open
Munich,
d'Australie, même depuis l'Open d'Australie,
il y a eu
c'est
Miami. Miami, il y
affolichant.
a eu du mieux quand même. Mais Indian Wells, c'était pas très bon, ouais. Et bon, Munich, je l'enlève un peu parce que c'était particulier. Les conditions, on va dire qu'on ne compte pas. Mais là, ouais, c'est encore décevant. Pourtant, c'est des bonnes conditions pour lui. Alors oui, c'est Cerundolo. C'est un Argentin. On sait que c'est des conditions qui conviennent bien à ce genre de joueur, avec l'altitude. Mais bon, tu dois quand même faire mieux. Tu ne peux pas prendre 3 et 4 par Cerundolo, quand même, je trouve. Mais après, ça enlève rien à la performance de l'Argentin. Face à un Fritz, ouais, qui retrouve des sensations, qui rejoue bien, qui est capable de quand même de bonnes choses sur la surface. Donc ça sera un match pas évident à pronostiquer. Je donnerais peut-être un petit avantage à Cerundolo quand même. Un profil un peu plus terrien, un peu sur la lancée de sa belle victoire. Peut-être Cerundolo en 3-7, mais franchement, très très dur de dégager un favori. Je sais pas toi, Josh, ce que t'en penses.
Effectivement, c'est méga ouvert comme match. Fritz, ouais, qui fait plaisir, hein, qui retrouve. Enfin, il n'a jamais été mauvais sur Terre, mais c'est un Américain, donc voilà, on sait que sa surface, il est plus à même à briller sur dur, comme il l'a fait avec à Indian Wells par exemple. Mais il est en quart de finale à Madrid et c'est pas démérité. Voilà, il peut jouer avec son service qui tape très fort sur cette surface. Il bat Hurkacz. Bon, Hurkacz, c'est quand même une belle performance après avoir battu Baez, qui est un joueur, un vrai terrien. Donc, intéressant comme confrontation. J'irai, c'est pas facile, j'irai naturellement un peu plus sur Taylor Fritz. J'ai toujours dit que Fritz, c'est un faux top 10, étant donné qu'il l'a été, mais qu'il n'a pas cette consistance à long terme toute l'année, avec des victoires et vraiment des résultats références. Mais ça peut passer par une potentielle demi-finale à Madrid. Ouais, un peu sur terre battue. Donc,
Il est terrible.
ouais, il peut très bien jouer sur terre battue. Donc, Cerundolo également très très bon, il n'y a aucun problème. Il y a Bazverev, incroyable, performance de dingue. Mais entre les deux, j'ai un petit penchant sur Fritz. Ça peut faire 3-7, je vais sur le 3-7. Mais je pense que je serai légèrement sur Fritz.
En tout cas, on va vous raconter à la fin de cette partie-là sur les messieurs, notre fin de tournoi. Et Jabeur qui mène 5-0. Il
Incroyable
faudra qu'on se dépêche à ce
renaissance.
rythme-là.
Ouais, du coup, pour Casper Ruud, pour la question de Casper Ruud, ouais, ils ne sont jamais joués avec Sinner sur Terre. Ouais. Il y a 2-0 pour Sinner, mais jamais d'affrontement sur Terre. Ça venait à arriver.
Avoir Ruud qui s'est bien relancé dans ce second set. Et la
Trois
dernière
fois.
affiche, celle qui est connue, Alcaraz contre Rublev. 1-0 pour l'Espagnol. Alcaraz qui a fait un sacré match contre Yann Lennart Struff. Vraiment, l'Allemand qui a joué crânement sa chance. Voilà, en essayant de prendre la balle tôt, d'agresser son adversaire, de le priver un maximum de temps, de ne pas lui laisser le temps de réfléchir et de faire ben, ces points où des fois il se compliquait un petit peu trop la vie. L'Espagnol, on l'a vu notamment sur la fin du troisième set. Franchement, je trouve qu'il était en confiance après son titre à Munich, qui a la bonne tactique vraiment pour gêner l'Espagnol, notamment quand il relance aussi, vraiment l'agresser le plus possible derrière, monter au filet. Alcaraz qui, je trouve, est apparu extrêmement nerveux. On sent qu'il craignait cet adversaire tout du long du match. Dès qu'il marquait un point, il s'encourageait énormément. On sentait qu'il redoutait ce match. Pour lui, c'était vraiment un cap de passer ce match contre Yann Lennart Struff. Et en face, Rublev qui revient après des défaites et des déconvenues, voilà, contre Nakashima. J'ai plus celle en tête contre qui il a perdu.
Il y a eu Popirin.
Oui, Popirin aussi.
Il y a eu Machak.
Machak, Nakashima et Lechka. Ouais, c'est ça, les quatre. Donc voilà, qui a eu un match fébrile contre Davidovich Fokina. Après, forcément, contre Grigspor, il doit passer. Il passe. Est-ce que, Rob, pour toi, Alcaraz a fait le plus dur en battant Struff? Là, il a vraiment repris la bonne dose de confiance qu'il lui fallait. Comment tu le jauges physiquement? Est-ce que tu vois une victoire facile pour l'Espagnol contre le Russe? Ou au contraire, tu penses qu'André Rublev peut créer la surprise?
Match un peu particulier aujourd'hui à analyser. J'ai raté le tout début, mais a priori, Alcaraz jouait très bien. Et je suis arrivé dans le deuxième et je vois set et break. Je me dis que ça va être tranquille. Et puis, on trouve des petits côtés un peu trop foufou parfois chez Alcaraz. Alors, c'est ce qui fait son charme, c'est parfois ce qui fait qu'il va nous faire des points incroyables et qu'il est fantastique à regarder. Mais je trouve que des fois, il se complique la vie. À un moment donné, j'ai le souvenir d'un coup derrière le dos qui tente, on ne sait pas pourquoi il tente ça. Enfin voilà, pareil, le premier point où il a 4 balles de match, la première balle de match, il fait n'importe quoi. C'est ce côté-là qui est un peu dérangeant parfois. C'est là où il doit faire attention, parce que contre un Struff qui était quand même bien dedans, à partir du moment où il débraye dans le deuxième set, il a vraiment joué crânement sa chance. Il faisait des retours qui étaient incroyables, hyper profonds, hyper puissants. Dès qu'il pouvait, il essayait de prendre la balle tôt. Il faisait beaucoup de services volés. Enfin, il essayait de casser le rythme, d'empêcher Alcaraz de se régler et d'imprimer sa cadence à l'échange. C'est vraiment un très très bon match de l'Allemand qui vaut bien mieux que ça. Là, c'était vu, il était, je crois, 25e mondial. Il va tomber 40e mondial. Ouais. Mais il vaut bien bien mieux que ça. Pour moi, il jouait top 10. Vraiment, il avait un niveau top 10 sur le deuxième et troisième set, sans problème. Donc, une belle victoire d'Alcaraz qui peut vraiment le mettre en confiance après les doutes, sa blessure à Monte Carlo où il n'a pas pu jouer, pareil à Barcelone. Je pense que là, il va enchaîner. Je le vois bien aller en finale, moi. On en parlera après, mais contre Rublev, je ne me fais pas trop de soucis. Après, Rublev retrouve de la confiance. Ça peut lui faire du bien d'avoir gagné 3 matchs, mais je pense quand même qu'Alcaraz est capable de tenir la cadence à l'échange et il a plus de variété, il peut monter au filet, enfin, il a une palette bien plus complète que celle de Rublev. Je pense que je le vois s'imposer. On aura peut-être un match quand même avec 2-7 accrochés, mais je vois 2-7. Je dirais peut-être 7-6 ou 2x6-4, un truc comme ça, mais je vois quand même Alcaraz.
Tu partages cet avis, Josh?
Ouais, complètement. C'était un match pas évident, très très dur. Struff, c'est le traquenard par excellence. Quand il est comme ça, quand il joue très très bien, à une surface qui lui va bien. C'est très très dur quand il trouve vraiment bien son tennis, qu'il a ses séquences, qu'il va vers l'avant, il nous a fait des belles séquences à la volée. C'est très très dur à jouer. Alors forcément Alcaraz a manqué de lucidité à certains moments, il a retombé un peu dans son tennis fantasy qui le dessert parfois, et là il n'est pas passé loin de sortir. On le sentait, comme tu l'as dit, qu'il s'encourageait à chaque point. Bon, ça, il a un peu l'habitude, c'est un peu sa marque de fabrique, on va dire. Ça lui permet d'avoir de la confiance, parce que mine de rien, c'est son premier tournoi sur la saison, sur terre battue. Donc, c'est compliqué. On voit qu'il peut avoir quelques petits trous d'air, surtout face à un joueur comme Struff, ça pardonne pas. Et il s'en sort quand même. Il s'en sort quand même. Et moi, Alcaraz, c'est mon vainqueur de Roland-Garros. Je pense qu'Alcaraz va gagner Roland-Garros et passer par une victoire comme ça, ça va lui faire beaucoup de bien. Je pense que Ferrero, en ce moment même, est en train de lui dire tout ce qui n'allait pas, tout ce qu'il va devoir corriger pour sa fin de tournoi et pour la fin de la saison sur Terre. Et je pense que comme c'est un très très bon élève qui est un prodige et qui sait à merveille, enfin qui sait s'adapter à merveille, il va pas refaire les mêmes petites fantaisies et reprendre son tennis, jouer simple, efficace, service, coup droit, monter à la volée. Et je pense que dans ce schéma, dans cette structure-là, c'est le meilleur. C'est le meilleur sur terre battue, c'est le meilleur à Madrid. C'est celui qui a le plus de confiance sur ce tournoi dans les joueurs qui restent. Donc, je le vois aller très loin, je pense qu'on le verra dimanche. Je pense qu'on le verra dimanche aussi. Je vais le mettre favori. Je vais le mettre favori du tournoi. Bien sûr, on espère qu'il n'y a rien physiquement, que l'avant-bras va bien. Mais je pense que Alcaraz peut décrocher un troisième titre à Madrid. Après, on verra ce qu'il nous fera à Rome. Mais je pense qu'à Roland, va falloir se lever très très tôt pour aller le chercher, ne serait-ce que pour prendre un set. Donc Alcaraz me fait aucun souci. Et Rublev, qui est, comme je le disais, une belle chose de le voir à ce stade, après sa petite série qui a suivi après son épisode dramatique de Dubaï. Voilà, c'est bien qu'il se remette en endroit. Je pense qu'on a besoin d'un bon Rublev sur le circuit. Maintenant, je pense que ça va être un tout petit peu trop court face à Alcaraz qui prend de la confiance, qui gagne ses matchs, qui revient. Et pareil, je vois un peu de 7 serré. Enfin, je vois 2-0 Alcaraz, mais pas non plus 6-2, 6-3. Du 7-5, du 7-6, on est là-dessus. Alcaraz en demi-finale.
Et maintenant, on va y venir. Tu parlais de l'efficacité de l'Espagnol. À nous d'être efficaces dans nos pronostics et Oula. D'écrire cette fin de tournoi. C'est extrêmement compliqué. Beaucoup d'illisibilité dans tout ça par rapport à la forme de chacun. Peu de garantie, finalement. Rob, si tu te mouilles un petit peu, donc du coup, les quarts, demi, finale et ton lauréat pour ce tournoi de Madrid édition 2024.
Je vois donc Sinner passer. Je pense qu'il sera plus costaud. Si c'est Auger-Aliassime, je pense qu'à l'échange, il sera plus costaud. Pareil contre Oud. Je pense que c'est des conditions quand même rapides qui lui conviennent bien contre ces deux joueurs-là. Je ne me fais pas trop d'inquiétude. Même s'il perd un set aujourd'hui, il a quand même su être solide pour conclure dans les deux dernières manches, donc je pense qu'il y a quand même une petite marge et je ne le vois pas perdre là. Après, moi je vois Rafa contre Medvedev. Je vais pousser ma folie, alors j'avais mis Rafa en quart de finale avant le tournoi et je ne suis pas loin d'être bon. Et je vais pousser la folie, je pense que Rafa battra Medvedev. Étonnamment, je pense qu'on aura un match étrange, je ne pense pas qu'on aura un grand match de tennis. Je ne serais pas surpris que Medvedev puisse craquer un peu mentalement. Je pense qu'on aura beaucoup d'échanges, peut-être des échanges un peu bizarres. Je pense que ça sera un gros combat. Je pense que ça peut être un match assez fou si ça arrive. Je vois bien une dinguerie 3h, 3h30, je ne sais pas pourquoi. Je vois bien une dinguerie comme hier. Mais Rafa qui s'en sort au combat au terme d'un gros match en 3-7. Après, pour les deux autres quarts, du coup, je tente Cerundolo. Là, franchement, je n'ai pas de grande conviction. Je le mets parce qu'il a battu Zverev, je me dis quand même qu'il a fait une grosse perte, donc il peut enchaîner, il peut être vraiment en confiance, mais à tout moment, ça se trouve, ça va être le match d'après, il va avoir du mal à confirmer, donc pas évident, mais je tente Cerundolo. Alcaraz, du coup, j'ai dit ouais contre Rublev, je pense que ça sera bien trop costaud, c'est bien plus complet que Rublev. Du coup, ça nous donnerait Sinner Nadal. Bon, là, on va peut-être quand même arrêter la folie, et je pense que Sinner sera trop fort, surtout pour un Rafa qui, à mon avis, si bat Medvedev, ça sera au terme d'un gros combat. Donc, en plus, ça enchaînerait parce que c'est jeudi les deux derniers quarts et ça jouerait vendredi. Donc, je pense que là, ça serait bien, bien trop compliqué pour Rafa. Donc, malheureusement, je verrais une victoire de Sinner assez tranquille en deux manches. Et de l'autre côté, je pense qu'Alcaraz serait plus fort que Cerundolo, même si c'est Fritz, je pense qu'il serait plus fort aussi à domicile. Il a 14 victoires de suite à Madrid, 24 victoires de suite en Espagne. Franchement, je vois pas. Vu le tableau qu'il a, je vois pas comment il fait pour ne pas aller en finale. Alors, bien sûr, il y a quand même Rublev, c'est un top 10. Fritz, comme on a dit, un faux top 10, entre guillemets. Cerundolo qui est solide aussi. Mais je pense qu'il a largement le tableau pour nous refaire une troisième finale consécutive à Madrid. Donc, ça nous donnerait un beau Sinner Alcaraz. Et je pense que ça serait encore pour Alcaraz, comme à Indian Wells, parce que je pense qu'à domicile, il aura l'avantage. Il maîtrise un peu mieux les conditions. Je vois bien, ouais. Et puis, il y a plus d'inquiétude physique côté Sinner, même si je ne suis pas trop inquiet par rapport à son naine. Il a quand même montré plus de signes d'inquiétude, alors qu'Alcaraz, je n'en ai pas trouvé. Quand on voit le coup droit, je ne sais pas si vous avez vu, à un moment donné, il lâche un coup droit en passing. Je ne sais pas combien il part le coup droit, mais c'est monstrueux, donc je ne pense pas qu'il soit vraiment gêné. Et même s'il est gêné, je pense qu'à 80%, son coup droit reste quand même phénoménal. Donc je suis assez confiant pour Alcaraz. Peut-être un match en 3-7 contre Sinner quand même, mais je suis assez confiant pour lui.
C'est un septième jeu de suite pour 11 jabber. Rafa va très rapidement entrer dans l'arène à ce rythme-là. Donc Stéphane Noy se sont jamais joués sur terre, Medvedev et Nadal. Et Alan, c'est vrai qu'on aura l'occasion de se projeter plus tard par rapport à la gestion d'Alcaraz de ces longs matchs. Il y a quelques matchs comme ça, voilà, celui contre Ramos à Roland-Garros. Mais c'est vrai qu'au niveau des combats, à chaque fois qu'il était attendu, il a beaucoup déçu. Et il n'y a que à Wimbledon. On ne l'attendait peut-être pas forcément qu'il a réussi à surprendre tout le monde. Josh, raconte-nous ton histoire de la fin de ce tournoi de Madrid.
Ok, on a Sinner. Il va affronter Félix ou Casper, on ne sait pas encore.
On ne sait pas encore. 5-4, Rude dans le deuxième set.
Rude s'accroche. Bon, on peut prendre les deux scénarios. Sinner un jour de repos, c'est ça, hein, ça joue pas demain.
Oui, ça jouera jeudi.
Ouais. D'accord, donc ça me conforte dans l'idée que Sinner passera ce quart de finale. Ouais, je le vois, j'espère qu'il sera bien physiquement. J'espère que Sinner sera bien physiquement, s'il est bien, il battra Félix. Il sera obligé de battre Félix, et ça peut faire un gros combat contre Casper Ruud. Mais je vois Sinner quand même décrocher sa demi-finale à Madrid. Ensuite, je pense que Medvedev va jouer Rafael Nadal, comme je le disais. Gros quart de finale. Effectivement, ça peut être étrange, ce quart de finale.
Ça va être une dinguerie. Ouais. Je l'annonce, si ça arrive, c'est une dinguerie.
Ça peut être très étrange. Malheureusement, je pense que Medvedev...
Ça sera en journée, je pense.
Nadal. Je pense que Medvedev battra Nadal. Ça peut faire même un match comme lors du Masters en 2001, s'il s'était joué. Nadal sert pour le match et ensuite il se fait complètement renverser. Et Medvedev passe contre Nadal, ça peut faire un match comme ça si Rafa commence bien son match. Hein. Sinon, ça peut aller en 2-7. Mais je vois un Medvedev qui passe contre Rafa. Ensuite, Cerundolo Fritz, comme je le disais, Fritz plus fort peut-être. Mais c'est un match assez compliqué, mais je vois Fritz contre Alcaraz, comme je le disais. Et donc, demi-finale, ça nous donne un Sinner Medvedev et un Fritz Alcaraz. Sinner Medvedev, Sinner trop fort, Sinner plus fort, qui a pris l'ascendant sur Daniil Medvedev depuis plusieurs mois. Là, depuis Pékin, Vienne, Medvedev n'arrive plus à battre. Ouais. Et sur Terre, même si Sinner n'est pas encore, on va dire, un grand expert de la surface, Medvedev non plus. Donc Sinner passera Medvedev pour se qualifier pour sa première finale à Madrid. Et de l'autre côté, on a un Fritz Alcaraz. Fritz, beaucoup trop court contre un Alcaraz qui sera en confiance, qui gagne ses matchs les uns après les autres, ce qui nous donne un Sinner-Alcaraz en finale, les deux nouveaux princes du circuit, comme je les appelle. Et là, ça peut faire un gros match, comme ça peut faire plouf avec un Sinner qui est au bout, qui est au bout de son tournoi, qui physiquement commence à ressentir toute sa saison. Là, il en est à je ne sais pas combien de matchs pour deux petites défaites.
30.
Il a perdu. Ouais, il a deux défaites, c'est ça.
22.
Le mec, il arrive au bout. Faut qu'il souffle. Alors que Alcaraz a très très faim et Alcaraz a à cœur. Enfin, voilà, il a ses points à défendre. Il peut pas passer à côté. Et Alcaraz gagnera Madrid pour la troisième fois d'affilée. Même Rafa ne l'a pas fait, ça, hein, gagner trois Madrid d'affilée. Donc c'est super fort.
Ce serait le premier, je crois. Hein. Je crois que ce serait le premier.
Il vient, construire encore plus sa légende à Madrid et se placer comme un des favoris, peut-être avec Djoko.
Le favori de Roland.
Moi, je vais faire un mix de vous deux. Je vois Sinner passer contre Ojeda Yassim, contre Ruud. Là, il y a 5-4, 15 partout. Donc après, je vois Medvedev Nadal. Et donc, Medvedev qui passe. C'est un petit peu le match de trop, un match compliqué physiquement. C'est pas évident. Il aura réussi son tournoi quand il arrive. Donc Sinner Medvedev dans la première demi. Je vois Cerundolo battre Fritz et Alcaraz battre Rublev. Donc ça ferait Sinner Medvedev et Cerundolo Alcaraz pour une finale. Sinner Alcaraz avec Alcaraz qui décroche un troisième titre consécutif à Madrid. Et comme lors de son premier titre à Umag, qui prend le trophée avec un énorme bandage sur son avant-bras droit. On sait qu'il est déjà capable de gagner dans ces conditions. Donc voilà un petit peu l'histoire. On va voir.
Donc Rublev va gagner.
Rublev ou Cerundolo, ça serait fou. Et Kiss qui va enfin peut-être mettre son premier jeu. Ça va être justement l'occasion de parler des dames. On a eu déjà un match qui a été joué, donc Świątek contre Adan Maia. Là, où le changement ne s'est pas fait au niveau du score. Du coup, ça a fait, j'ai plus, c'est 4-6, 6-0, 6-2.
C'est ça.
Oui, c'est ça. 6-0, voilà. 6-2, ouais. 4-6, 6-0.
Ouais, c'est ça. Ben voilà, je changerai. Donc, j'ai pas eu le temps de changer. Donc, Świątek a eu un peu de mal face à la gauchère Adan Maia, qui est toujours compliquée à manœuvrer, mais qui après, on se montre un peu plus agressive. A réussi à faire la différence, à la faire craquer notamment sur son côté revers. Qu'est-ce que vous pensez de Iga Świątek? On sait que Madrid, c'est pas forcément le tournoi qui lui réussit le mieux sur terre. Josh, est-ce que tu la vois grande favorite?
Je la vois favorite, oui. Elle a eu un match, ouais, pas forcément évident, du moins au début. Après, elle déroule, pas de souci. Mais ouais, elle fait quand même finale l'année dernière contre Sabalenka. Donc, elle était pas loin de remporter le tournoi quand même. Là, je la sens quand même bien. Je la sens quand même en jambes. Elle enchaîne les victoires. Elle est, comme on la connaît, hein, elle a un lift qui fait très très mal sur cette surface. Elle est vraiment impériale, plus forte. Elle domine l'échange. Elle va chercher ses points. Et je pense qu'elle va être très très dure à aller chercher déjà sur ce Madrid. Quand Roland arrivera, on parlera de Roland. Et je pense que, pareil, si elle est dans cette lignée, elle va être très très dure à aller chercher. Mais là, je pense qu'elle va aller, qu'on va la voir aussi dimanche. C'est quand est-ce qu'on a
samedi après-midi.
Je pense qu'on la verra, pareil. Ce serait bien de voir un petit remake de la finale de l'année dernière. Contre Sabalenka.
Non.
On va voir comment ça se passe. Et je pense qu'elle battra ses prochaines adversaires. Et je pense qu'elle est, ouais, je la mets favori du tournoi. Même si là, Jabeur, on regarde pas le match, mais elle a l'air de dérouler. Donc on ne sait pas si ça penche plus du côté Kiss qui pomme un peu, ou Jabeur qui est en pleine forme. Mais en tout cas, ça va être un beau match entre les deux. Mais je vois Świątek aller au bout du tournoi.
Tu es de cet avis, Rob? En tout cas, sur cette demi qui arrive.
Świątek, ouais, assez solide. Petite frayeur aujourd'hui, mais c'est souvent des bons combats entre elle et Adan Maia. Donc, c'est pas non plus surprenant de l'avoir perdu un set. Après, sur première, quand même 6-0, 6-2, j'ai pas vu le match, mais bon, je me dis qu'elle a quand même dû mettre un bon coup d'accélérateur pour conclure ça. Même si c'est Madrid, ouais, que les conditions lui conviennent peut-être un peu moins, c'est quand même la numéro 1 mondiale, elle reste quand même très solide. J'ai vu qu'elle était déjà 25 victoires en Masters 1000 sur Terre. Quand on sait qu'il n'y en a que 2 par saison, ça montre un peu à quel point elle est très très forte depuis quelques saisons. Ça serait donc probablement contre Jabeur. Alors Jabeur, j'ai pas vu tant de matchs que ça, mais pour la petite info, elle s'entraîne avec Fernando Verdasco a priori maintenant, et j'ai vu quand même pas mal de variations. J'ai vu qu'elle faisait des belles amorties, elle sortait une superbe contre Leila Fernandez notamment dans son deuxième match. Donc je me dis, ouais, Jabeur peut poser des problèmes, je pense, à Świątek. Je pense que Świątek est au-dessus quand même, mais ouais, je pense que ça peut être un beau match, peut-être 3-7. J'aurais hâte en tout cas de voir ce match s'il a lieu. Je ne sais pas trop ce que tu en penses, Conce, mais...
Ouais, clairement, déjà, ça fait plaisir de revoir Jabeur. Enfin, c'est une joueuse qu'on adore, et ça a été très très compliqué ce premier trimestre. Voilà, physiquement, elle peinait à retrouver son niveau de jeu. Donc là, pour le moment, elle est en maîtrise contre Madison Keys. Après, ça peut tourner dans un sens comme de l'autre. À voir si elle arrive à confirmer 30 partout, 2-1 sur son service. Mais en tout cas, on sait que dans ces conditions à Madrid, ça lui va bien. Ces conditions un petit peu plus rapides, voilà, de très très bonnes sensations. Par rapport à Sabalenka qui pourra jouer les Jeux Olympiques.
Moi, j'ai vu l'info passer, elle serait pas sur la liste apparemment du CIO. Après, ça demande confirmation, mais j'avais vu, c'était il y a un bon mois, qu'au mois de mars, qu'elle était pas sur la liste a priori. Donc, à suivre, mais il y a des chances qu'elle y soit pas. Ouais.
Bon, du coup, balle de débreak pour Keys, à voir ce que ça va donner. Et les affiches qu'on connaît, donc Putintseva contre Rybakina, avec 2-0 pour Tintseva, qui est une très bonne joueuse de terre, notamment avec son style de jeu, où elle est très solide du fond du court. Pas un très grand gabarit, donc elle sert pas très très bien. Elle a quand même Cara Roland en 2016-2018, elle a fait un Cara Rome en 2020. Et Rybakina, qui pour moi est peut-être l'une des favorites de ce tournoi, qui est sur 7 victoires consécutives, donc les 4 dernières où elle n'a pas concédé le moindre set, et où étonnamment elle n'a jamais passé le 3e tour à Madrid. Pourtant c'est des conditions qui lui vont bien, qui peuvent lui, enfin, vraiment avantager son jeu et sa puissance, et des breaks de Madison Keys. Donc à voir si ce deuxième set est relancé. Mais Rybakina qui va voilà, prendre la revanche, en tout cas contre sa compatriote. Match compliqué où d'un côté on va avoir les frappes tendues, très à plat, la puissance de Rybakina et le jeu en contrôle et en contre de Putintseva, qui va chercher à remettre un coup supplémentaire et à pousser son adversaire à la faute. Josh, est-ce que tu vois Rybakina continuer sur sa lancée avec une 8e victoire d'affilée?
Oui, elle est très en forme. Après son tournoi de Stuttgart, elle est en confiance. Et ça se ressent aussi. Hein. Elle ne perd pas un set. Elle est en maîtrise totale sur ses derniers matchs. Alors certes, elle n'a pas eu forcément des grosses oppositions jusqu'à maintenant, mais elle monte quand même en puissance. Et ça va être intéressant de la voir face à une joueuse comme Putintseva, contre qui elle n'a jamais encore gagné. Je pense vraiment qu'elle peut débloquer son compteur de victoire face à la Kazakh. Elle a tout en ce moment. Enfin, voilà, elle a le jeu. On sent que c'est très bien huilé, qu'elle a les séquences, qu'elle arrive à aller vers l'avant. Et contre une Putintseva qui, certes, joue très bien, fait un bon tournoi, je vois Rybakina plus forte. Ça pourrait aller en 3-7, mais je vois Rybakina un peu plus forte au final. Et Putintseva qui me semble un tout petit peu trop courte face à la Rybakina qu'on a en ce moment. Donc, je vais aller sur Rybakina en 3, ouais, en 3-7. Allez.
Tu rejoins cet avis, Rob? Ah, on a perdu Rob.
Ouais, ouais, non, c'est bon, je suis de retour. donc du coup, ouais, pour Rybakina, ouais, elle est en feu. Même à Miami, hein, franchement, elle jouait bien à Miami aussi. Il y a beaucoup de matchs en 3-7. Là où il y a une petite faiblesse chez Rybakina, c'est qu'elle a du mal à être régulière sur toute une partie. Il y a quand même des up et des down. On va dire qu'il y a quand même plus de up que de down, donc souvent ça passe quand même. J'ai envie de dire aussi qu'actuellement c'est sûrement la vraie numéro 2 du circuit féminin. Alors pas au classement, mais clairement dans les résultats, dans l'attitude, pour moi c'est la numéro 2 derrière Swiatek. Donc je la vois passer, je pense que ça sera plutôt en 2-7 moi. Je la vois vraiment solide en ce moment. Comme tu l'as dit, sur la lancée de Stuttgart, il y a eu Miami avant aussi. Elle est en pleine confiance. Je crois qu'elle est déjà à 30 victoires cette saison. Enfin, c'est juste fou. Elle est très très solide. Donc ouais, moi je la vois vraiment, on en parlera après, mais même elle est sûrement plus loin, donc franchement elle est très solide, impressionnante.
Justement, on va parler de la dernière affiche et on sait que c'est celle qui t'intéresse le plus, Rob, avec de la pépite Andreeva qui va jouer contre Sabalenka, donc la Biélorusse qui mène 1-0, où elle avait stoppé ici même, enfin en 8e de finale l'an dernier à Madrid. Donc un tournoi où Andreeva, elle a fait plaisir, elle confirme vraiment tout le potentiel qu'on voit en elle. Vas-y Rob, c'est ton moment. Est-ce que tu penses que Mira va le faire?
C'est le moment de briller. déjà, ouais, c'est une revanche de l'an dernier. L'an dernier, c'était le tournoi où tout le monde a un peu découvert Mira, qui brillait sur le circuit ITF. Mais c'était vraiment son premier gros tournoi sur le circuit principal. C'est là où elle s'était révélée, elle avait perdu en 8e. Donc là, c'est en quart. Une Mira qui a été assez impressionnante sur ce tournoi. On ne pensait pas qu'elle irait aussi loin. Chaque tour, c'était compliqué, que ce soit Townsend. Il y a eu deux matchs. Attends, j'ai perdu un des deux matchs, mais un de ses deux premiers matchs. Mais elle gagne en trois les deux premiers.
Noskova.
C'est ça, ouais, Noskova aussi. Ouais.
Noskova, après, elle fait Vondrousova et Paolini.
Elle est menée dans cette d'un break à chaque fois et elle revient. Contre Vondrousova, elle est vraiment très très solide, bien plus régulière. Elle sort quand même une top 10, deuxième victoire face à une membre du top 10 en carrière. Contre Paolini, qui avait complètement écrasé Garcia, on pouvait dire ça va être compliqué, et elle bat encore Paolini. Donc en fait, elle repousse un peu à chaque fois les limites. On n'arrive pas à savoir jusqu'où elle peut aller, parce que à chaque fois, on est un peu un peu surpris. Le début de saison était un peu plus compliqué si on excepte l'Open d'Australie. Parce que du coup, à l'Indian Wells, elle était un peu blessée. Elle n'est pas allée à Miami. Et à Rouen, c'était pas mal, mais pas fou. Par contre, là, ouais, on sent qu'elle aime bien Madrid. Ça fait 2 ans qu'elle performe bien là-bas. Et j'ai envie d'espérer quand même. Alors, oui, je pense que ça sera dur. Parce que quand même, Sabalenka, c'est une puissance de frappe que Mira est peut-être pas capable de gérer. Je pense que Mira est capable de battre beaucoup de joueuses, d'embêter beaucoup de joueuses. Mais contre Swiatek, Rybakina et Sabalenka, j'ai plus de doutes par rapport à la puissance de frappe. Ça va être la clé. Est-ce que Mira peut encaisser? Est-ce qu'elle peut vraiment faire déjouer, varier? Il va falloir varier, je pense. Elle a frappé beaucoup en cadence ces matchs précédents. Ça ne lui a pas posé trop de soucis. Par contre, là, si elle veut s'en sortir, il faudra varier un peu plus. Parce que si elle s'engage en cadence contre Sabalenka, je pense que c'est cuit d'avance. Il faudra faire des amortis, il faudra slicer, il faudra essayer de la faire déjouer. Je pense qu'elle peut le faire. C'est une des joueuses qui, sur le circuit, est capable de bien varier. La question, voilà, ça va être de savoir si elle peut faire déjouer complètement Sabalenka ou pas. Une Sabalenka qui n'a pas été très très bonne sur ses deux premiers matchs. Franchement, contre Linette, elle était pas loin de la sortie. Contre Montgomery, j'ai regardé un petit bout et franchement, ça jouait bien en face et elle faisait beaucoup de fautes, notamment en retour. Contre Collins, il y a eu des hauts et des bas encore hier. À chaque fois, c'est 3-7. Donc, je vois 3-7. J'ai du mal vraiment à me prononcer. Je pense que si je dois être complètement objectif, je dirais peut-être quand même Sabalenka à l'usure, à force de frapper et de mettre Mira trop dans des situations difficiles en défense. Vraiment, ça va dépendre de la capacité de Mira à varier. C'est dur à analyser ce match, je trouve. Je ne sais pas toi ce que tu en penses, Josh.
Break de Jaliasim, juste pour l'info.
Break de mon
frère. Pour le match.
Du coup.
Break de ton frère.
Ouais, match super dans une super opposition. Sabalenka qui est en souffrance quand même sur ce tournoi-là. Très compliqué. Ouais. Par contre,
même en général, depuis l'extra sportif.
Ouais, bien sûr.
Même un peu avant, hein. C'est depuis l'Open d'Australie. Hein.
Au vu des circonstances de ce qui lui est arrivé, c'est dingue d'être sur le court et de produire ce que. Enfin, d'être à ce niveau-là. Mais très compliqué contre Collins. Elle sort quand même un gros, gros niveau de jeu pour s'en sortir dans ce match. Elle a sorti l'artillerie, c'était incroyable. On sait qu'elle peut vraiment en mettre partout, mais là, quand c'est dedans, c'est juste exceptionnel. C'est injouable quasiment. C'est quand même pour ça qu'elle a gagné le tournoi. Andreeva, incroyable. Quel mental, quelle persévérance. C'est affolant ce qu'elle fait pour une force mentale quasiment unique, hein, unique à son âge de s'accrocher comme ça. Elle est menée comme pas possible. Elle a des balles, enfin, la balle de 7 à sauver, elle revient, elle renverse et elle plie en 2-7. Donc, match super intéressant. Sabalenka, Andreeva. Sabalenka mène 1-0, ouais.
C'était il y a un an. C'était pas la même Mira non plus. C'était pas la même Sabalenka.
C'est sûr.
Je sais pas si on peut vraiment s'appuyer là-dessus.
Ouais. Ça va être. Non, je vais aller sur la Biélorusse quand même. Mais je me demande à quel point ça ferait pas un match incroyable en 3-7.
Sûrement en night.
Je vais sur le 3-7. Et je vais aller sur Andreeva qui prend le premier. Ouais, Andreeva qui prend. Non, Andreeva prendra le deuxième.
Il faut le 7, et le break de retard, sinon c'est pas vraiment.
Andreeva prendra le deuxième, donc Sabalenka prendra le premier et finira dans le troisième. Mais Andreeva, encore une fois, tu sais pas ce qu'elle peut sortir. C'est ça qui est fou et qui est vraiment très, on va dire, excitant à regarder. En tant que public, enfin, tu te dis, ouais, même si elle est menée double break, elle peut revenir et ça peut piéger.
Si elle mène double break, elle peut perdre aussi.
Ouais, donc ça va être intéressant de voir ça, mais je vais aller sur Arina en 3-7.
Et du coup, pour écrire un petit peu la fin de tournoi chez les dames. Qu'est-ce que vous voyez, Rob? Quelle est ta fin de tournoi chez les dames, sachant que Swiatek est déjà qualifié? Jabeur, il s'est fait remonter dans le second set, bientôt 4-3 normalement pour Madison Keys. Pas de break en vue. Comment est-ce que tu vois la fin de tournoi chez les dames?
Je vois Swiatek en finale, peu importe que ce soit Keys ou Jabeur, je pense qu'elle sera au-dessus. J'aimerais vraiment voir contre Jabeur, je pense que ça peut être un beau match en 3-7. Mais je pense que la polonaise finirait par venir à bout de la tunisienne. De l'autre côté, du coup, j'aurais Rybakina. Bon, vu que je suis fou, je tente Andreeva en demi. Allons-y, tant qu'à faire. J'arrive pas à me prononcer, on va mettre Andreeva avec le cœur. Bon, je pense quand même que Riba, stopperait la folie si jamais Andreeva va en demi. Et même si c'est Sabalenka, je pense que la confiance actuelle de Rybakina, le fait que je la trouve bien plus régulière, elle fait moins de fautes, elle est vraiment bien en ce moment. Je pense que quoi qu'il arrive, je verrai Rybakina en finale. Et ça donnerait finalement un peu la finale rêvée entre les deux meilleures joueuses de la saison, je pense, pour moi. Et là, dur de se prononcer. Je me dis que ouais, c'est pas évident. Est-ce que l'orgueil de Swiatek qui veut prendre sa revanche de Stuttgart, peut-être? Pas simple, pas simple, pas simple. Peut-être dire quand même Swiatek en 3-7, genre peut-être pas perdre deux fois de suite contre Rybakina. Mais franchement, ça serait une superbe finale, je pense, si ça venait à arriver.
Et toi, Josh?
Donc Swiatek il battra donc là ouais Jabeur qui a fait un super tournoi qui est enfin c'est très encourageant pour la suite mais Swiatek plus forte enfin ouais va dominer donc Swiatek en finale et en face ça nous fera du Rybakina contre Sabalenka un gros match ça un gros match je vais aller sur Sabalenka que je vois plus forte, même si elle pourrait galérer, hein, ça peut faire un gros, gros 3-7 entre les deux. Mais je vois un remake de la finale de l'année passée. Et Swiatek qui prend sa revanche contre une Rybakina qui sera dans un jour. Enfin, voilà, on voit qu'elle a beaucoup de mal. Donc là, si elle reste comme ça au niveau on va dire, des fautes directes face à une Swiatek contre qui il faut que tout soit parfait. Je pense que ça ne le sera pas ce jour-là pour Sabalenka. Donc. Swiatek prendra sa revanche. J'espère un beau match en 3-7 quand même, avec une Swiatek qui prend le large dans le troisième, 6-4 au troisième. Un gros match bien intense, mais Swiatek plus forte au final que Sabalenka et qui confirme son statut de favori avant Roland-Garros. Et Félix vient de conclure.
Ton frère vient de s'imposer.
Un beau quart de finale pour
Ouais,
Félix.
c'est ça.
Et Swiatek gagnera ce tournoi de Madrid.
Alors moi, du coup, Swiatek, bon, on va dire Swiatek Jabeur. Allez, Swiatek s'impose. Rybakina Sabalenka, Rybakina s'impose. Et Rybakina s'impose contre Swiatek en finale. Il marque un petit peu aussi le match-up compliqué pour la Polonaise, d'autant plus dans ses conditions, contre une joueuse très agressive comme Rybakina. Donc voilà un petit peu ce qu'on avait à vous dire pour les quarts, messieurs, les quarts dames. Peut-être, juste pour finir, c'est une question intéressante. C'est que j'avais jamais vu Alan que le système de notation des points au tennis proviendrait du nombre de secondes jouées pour se faire. Ah non, tu parles de 15-0. Ah non, je crois que tu parlais du système de points. Non, non, ça tombe bien parce qu'il y aura une vidéo bientôt sur ça. Mais ça provient du jeu de paume par rapport à la distance, par rapport au filet 15, 30 et 40.
Ça spoil la vidéo du coup.
En
Aïe, aïe,
exclu,
aïe.
en exclu,
Alan,
en exclu pour toi.
Alan, il faut
Pour
juste
toi, là.
rester sur la chaîne, tu scrutes, tu mets la petite cloche pour recevoir les notifications. Et bientôt, tu recevras tout, tout, tout des règles de la genèse du tennis et des règles, tu sauras tout de bout en bout.
C'est ça. Juste avant Roland-Garros, on va sortir cette petite pastille, donc reste bien connecté. Comme d'habitude, ben, le pouce bleu, l'abonnement, le partage. Et pour patienter. Il y a quand même deux superbes vidéos qui sont sorties sur GameStand Talk qui ont été faites par Josh. Une où on revient un peu plus sur le tournoi de Madrid et ses conditions si particulières. Et Alcaraz, est-ce qu'il est déjà légendaire? On reprend un petit peu son début de carrière par rapport à tout ce qu'il a fait. Et il en a fait des belles choses et ce n'est que le début. Nous, on se retrouve très très rapidement, le temps de reprendre une respiration. On reprogramme un live et on se retrouve pour le début du match de Rafa. Donc là, on pourra prendre le temps de répondre à toutes vos questions. Voilà, venez, venez, voilà, préparez-vous à manger. Il y en a qui parlent de
Ouais,
manger.
venez.
Venez tous, c'est toujours un moment convivial. On sera tous les trois. Bon, pour le moment,
Jusqu'au bout de la nuit.
C'est ça, jusqu'au bout de la nuit avec Rafa. C'est un peu le fil conducteur. On va voir si Jabeur conclut ou pas le temps qu'on reprenne une respiration. Et nous, bah, on se retrouve vraiment dans quelques minutes. Donc, restez connectés. Soit vous mettez le match de Rafa, vous suivez un peu la Ligue des Champions de loin si vous êtes foot et vous nous écoutez. Et je pense qu'on va passer une très, très belle soirée. En attendant, bon appétit à ceux qui vont manger. On se retrouve vraiment très, très vite. Donc, restez bien connectés sur la chaîne. Passez une courte petite soirée avant qu'on se retrouve demain le match de Rafa. D'ici là, portez-vous bien. À tout de suite.
À tout de suite.
Salut.